Alors, on est dans une série sur l'évangile de Marc. Merci beaucoup. Et donc, il y a déjà eu plusieurs prédications. Moi, je vais parler des chapitres 11 à 13. Mais déjà avant, il y avait eu quatre prédications jusqu'ici. Une sur prendre conscience de qui est Dieu. Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Une aussi sur semer pour le royaume. La troisième sur croire en la puissance de Jésus et ses miracles en particulier. Et puis, l'humilité comme chemin vers la gloire de Dieu, ça c'était la semaine passée. Un message puissant, des messages puissants, que je vous invite aussi à réécouter si vous le souhaitez sur le site de la paroisse. En gros, sur l'évangile, donc on arrive au chapitre 11, et ce qu'on voyait, c'est que l'évangile, on peut presque le couper en deux, hein, jusqu'au chapitre 8, où il y a ce que Jésus fait, et puis après, il commence à enseigner au chapitre 8, en chemin, et puis là, on est dans les enseignements de Jésus. Donc, la semaine prochaine, on entrera sur sa passion avec le chapitre 14. Est-ce que quelqu'un a lu l'évangile de Marc depuis qu'on a commencé cette thématique? Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Ah, il y en a qui lèvent quand même la main. N'hésitez pas à, si vous ne voulez pas lever la main. Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise, c'est plutôt pour vous encourager à le lire. Parce qu'il y a vraiment des petits mystères que Dieu va vous révéler aussi à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, et qui se passent juste dans l'intimité avec lui. Vous verrez que c'est le cœur de ce message de pouvoir parler de cette intimité avec le Père. Donc aujourd'hui, on va voir donc 11 à 13 les chapitres. Est-ce que quelqu'un voit cette image? Ouais, il y a donc quelqu'un de dos. Je me suis dit c'est mieux comme ça, on voit pas de visage de Jésus, mais il entre triomphant à Jérusalem. Et puis ensuite, là, on distingue un petit peu un fouet dans sa main droite. Donc c'est qu'il chasse les marchands du temple, ça se passe aussi dans le chapitre 11, juste après l'entrée triomphale. Et puis après, il n'y avait pas vraiment d'image, mais il parle en parabole, il enseigne en parabole au chapitre 12, et au chapitre 13, il donne des prophéties sur la fin des temps, et sur son rôle en particulier, à lui Jésus, pendant la fin des temps. Donc au milieu de ce passage, il y a quelque chose qui est important, là peut-être vous le voyez un petit peu, mais c'est un peu pâle. C'est en fait une image de reconstitution de Jérusalem. Et on voit que tout ça, là, c'est le temple de Jérusalem. Et en fait, le temple, il faisait un quart de la ville de Jérusalem à l'époque. Et donc, c'est nous montrer l'importance quand on dit que Jésus va chasser les marchands du temple. C'est pas qu'il chasse seulement les marchands du temple, mais c'est qu'il est en train de faire un tremblement de terre à Jérusalem. Tout le monde devait parler certainement de lui à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est arrivé, on l'a loué, on l'a glorifié, puis lui, il vient ébranler notre institution, comme ça, le temple. Il y a une autre chose qui m'a frappé en lisant ces trois chapitres, 11, 12 et 13, c'est que Jésus observe ce qui se fait. Donc, je ne vous pointe pas du tout, mais je montre les yeux qui observent. Il vient, il y a une chanson que j'aime bien, il dit... Et si Jésus était l'un d'entre nous, si Dieu était l'un d'entre nous, juste un étranger dans le bus, et s'il était là ce matin, on l'a chanté, le Saint-Esprit est là, mais comment il regarderait ce qu'on est en train de faire, les pensées qu'on a? En plus, il y a un monsieur qui le dit aussi dans les chapitres, je ne vous dis pas le verset, mais dans les trois chapitres, il y en a un qui dit, « Oh toi Jésus, toi qui ne t'arrêtes pas aux apparences. » C'est comme ça qu'il l'interpelle. Alors je me dis, Jésus nous regarde et il ne s'arrête pas aux apparences. Alors là, il y a ces deux versets, donc on voit, et Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, après avoir tout regardé autour de lui. Hein. Donc il s'arrête au temple, avant de chasser les marchands, il s'arrête, puis il regarde. Il y a vraiment ce moment où il observe ce qu'on fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui avais institué le temple, qu'est-ce qui s'y fait? Et puis ensuite, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Et puis, là, un autre verset qui va être important pour nous, parce que c'est le texte que je veux lire ce matin aussi pour cette prédication. S'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. C'est intéressant, on a déjà fait l'offrande. Comment il regarde ce qu'on met dans l'offrande, Jésus? C'est intéressant aussi. Ben, on va voir ce qu'il dit un peu de tout ça. J'ai mis déjà des passages en jaune juste pour remettre en évidence déjà ce qu'on vient de lire, le fait que Jésus regarde comment on donne l'offrande, et puis la suite, vous verrez, c'est aussi quelque chose d'important sur une vieille dame, une veuve. Et avant ça, je vous propose qu'on prie encore une fois. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que là, on est dans l'évangile en plus avec Marc et tu nous parles directement toi, Seigneur. Et je te prie de couronner vraiment ce moment de ta gloire, Seigneur, et de toucher nos cœurs par ta parole. Oui, Seigneur, vraiment révèle ta parole au milieu de nous. Révèle sa puissance et cet effet boomerang, Seigneur, qui fait qu'elle vient, elle est là au milieu de nous, elle ne va pas retourner jusqu'à toi sans avoir fait un effet, Seigneur. Et bien, Seigneur, que cet effet soit plein ce matin, dans chaque cœur, au nom de Jésus. Amen. Donc, s'étant assis en face du trésor, on parle de Jésus, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant 1 cadran. Dans d'autres versions, ils ont simplifié, ils ont dit 2 pièces. Alors il appela ses disciples et leur dit « Amen » ou « En vérité », d'autres traduisent, « Je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son essentiel, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Est-ce que ce matin, pas besoin de lever la main, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis tout ce dont vous avez besoin pour vivre? Est-ce qu'il y en a qui se sont dit, je vais donner tout l'argent que j'en réserve, toutes mes économies, tout? Je dis, c'est fou quand même ce texte. Je me dis, cette veuve, elle a compris quelque chose et c'est ça qu'on va voir ensemble. Et ça m'a inspiré le titre de ce message. Chrétien de nom ou chrétienne de nom n'est pas égal à chrétien d'onction ou chrétienne d'onction. Alors pour le chrétien ou la chrétienne de nom, vous avez vu un peu, c'est ces riches qui donnent beaucoup peut-être, qui sont finalement bien vus, on peut des fois mettre un nom dessus, on se dit peut-être c'est les pharisiens à l'époque, ou aujourd'hui vous avez toutes sortes de noms qui peuvent vous traverser l'esprit maintenant. Mais pour comprendre la deuxième partie du titre, chrétien, chrétienne d'onction, on doit retourner un petit peu en avant, si vous voulez, dans les chapitres qui précède le chapitre 11, pour comprendre ce que ça signifie l'onction aux yeux de Marc, l'évangéliste. Et on peut aller dans Marc 8, 27 à 38. Là, on ne va pas le lire ce matin, mais vous pourrez le lire si vous le souhaitez à la maison, je vais vous le raconter. Donc dans Marc 8, 27, ce qui se passe, c'est que Pierre va dire à Jésus, « Toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Parce que Jésus avait demandé « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Après aux disciples « Qui est-ce que vous dites que je suis ?» Et puis ça, c'est la réponse de Pierre après avoir cité plein de gens. Lui, il dit « Moi, je dis que tu es le Messie. » Et puis jusque-là, nous, on est tous là en tant que chrétiens. On se dit « Mais c'est super !»« Mais Pierre, mais c'est moi !» C'est ce que j'ai dit peut-être le jour de ma nouvelle naissance. C'est peut-être ce que j'ai dit le jour de ma conversion. J'ai dit « Ouais, Jésus, tu es mon tout, tu es mon essentiel. » Et puis la réponse de Jésus est tellement surprenante. Si on a déjà lu le chapitre 11, c'est presque comme s'il avait un fouet. Il dit, taisez-vous, tais-toi. Et puis, il commence à expliquer qu'il doit mourir à la croix. Alors là, Pierre, il en met une deuxième couche, il le prend un peu à part, et puis on nous dit qu'il commence à dire à Jésus, non mais tu sais, t'as pas bien parlé là, maître, hein, rabbi. Faut pas que tu dises ça, tu vas commencer à décourager nos frères et sœurs, nos amis, parce que nous, on attend le Messie, comme je viens de le dire. Et puis, tu peux pas dire que tu vas mourir, sinon on attend que tu nous libères de l'oppression romaine. Et puis là, Jésus, de nouveau, mais cette fois, il s'adresse vraiment à Pierre, puis il le menace. Il dit, arrière de moi, Satan. Et puis, c'est marqué vraiment dans le texte qu'il le menace. Et si vous avez entendu la prédication sur la puissance de Jésus il y a 2 semaines, le possédé de Gadara, la même chose, Jésus le menaçait. La tempête, la même chose, Jésus la menaçait. Elle a le même mot. Et en fait, on se dit, mais il est en train de faire une délivrance à Pierre, alors que Pierre, il vient de dire que tu es le Messie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est l'image que vous voyez ici. Là, on voit un homme sur un cheval. Et ça, c'est les messies de nom. Ce qu'on sait, c'est que depuis, bien sûr, des centaines et des centaines d'années, le peuple juif attend un messie. Mais en particulier, quelques décennies avant que Jésus arrive, il y a eu un homme qui s'est levé, Judas Maccabée, et qui a réussi à amener vraiment une percée. Il a réussi à tuer beaucoup de Romains pour essayer de donner au peuple israélite de nouveau son temple, sa ville de Jérusalem, et puis une force politique. Et donc, ce qu'on voit dans le passage, c'est que Pierre et les disciples, ils avaient une vision d'un messie politique. Ils pensaient, ah, mais Jésus va nous délivrer des Romains. Et puis Jésus, il leur dit, mais vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous êtes en train d'observer, mais vous regardez à ce qui frappe les apparences. Vous voyez les gens qui viennent vers moi, vous voyez que je fais des choses extraordinaires. Et donc, vous m'appelez Messie. Mais ça, c'est un nom. Moi, j'ai une onction. Une onction, c'est que je dois être loin de quelque chose. Et cette onction, c'est la mort. Et la mort à la croix. Alors là, ça bouleverse. Et en fait, ce qu'il dit après, ça, c'est les versets 34 à 38. Il dit, vous aussi, vous ne devez pas juste être des disciples de nom. Vous ne devez pas vous dire, on a marché avec le maître. Mais vous devez vous dire, moi aussi, je dois donner ma vie. Je dois tout abandonner. Je dois tout perdre pour avoir un trésor dans le ciel. Je dois être un chrétien d'onction, une chrétienne d'onction. Et cette onction, c'est la mort à la croix. Alors, il y en a qui peuvent se dire, bon, là, Luc, on ne te suit pas trop dans cette explication. Et je vais vous montrer qu'en fait, dans les chapitres 11 à 13, il y a quand même quelque chose qui peut soutenir cette explication. Donc, le premier indice, c'est l'amour que les disciples eux-mêmes ont pour le temple. On a lu le passage avec la veuve, et dès qu'ils sortent du temple, après que Jésus a regardé comment les gens donnaient de l'argent, il y a un des disciples de Jésus qui dit « Ah, maître, t'as vu ces pierres? T'as vu cet édifice? Magnifique !» Ah là, je suis un bon chrétien de nom, tu vois. T'as vu, mon temple, il est magnifique. T'as vu, hein, c'est super. Ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti avec notre argent. Et puis Jésus, il lui dit, tu vois ce temple, il restera plus pierre sur pierre. Ça, c'est un premier indice. Puis le deuxième, encore plus concret, c'est celui de la comparaison entre le temple et le figuier. Donc là, c'est une reconstitution du temple qui a été faite dans une grosse maquette au musée d'Israël à Jérusalem. Et puis là, on voit un petit peu justement la partie du temple qui était réservée aux Israélites. Et donc ça nous montre quand même la grandeur, hein, le temple qui avait été encore embelli par Hérode le Grand, et c'était vraiment énorme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le chapitre 11, si vous lisez les versets 5 à 25, en fait, Marc, il a enchâssé deux récits. Il met une partie au temple, puis après, le figuier, un figuier qui est sur le chemin de Jésus et des disciples. Puis Jésus, on nous dit qu'il a faim. Et puis il va vers le figuier, puis il voit plein de feuilles, comme ici, on voit plein de feuilles. Puis quand il regarde de plus près, il voit pas de fruits. Puis Marc, il nous dit que c'était pas la saison des figues. Alors là, on se dit, c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. Mais Jésus, c'est comme si dans le texte, on peut dire en lisant, comme s'il s'énervait. Et puis il dit que plus jamais tu ne portes de fruits, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Puis après, ils vont à Jérusalem, il y a le temple, ils chassent les marchands du temple. Et puis en repassant au retour, quand ils regardent le figuier, les disciples ils disent « Mais regarde, Rabbi, maître, le figuier que tu as maudit, il est tout desséché. » Et puis là, on se dit, mais est-ce que Jésus a fait un miracle négatif? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour continuer sur l'interprétation que moi je donnais, c'est plutôt que lui, il voit, et Marc, il nous montre le lien entre le figuier et le temple, il voit que le temple, il y a une activité énorme. Et le figuier, c'est comme un symbole du temple. Il y a une activité énorme. Le figuier, il a plein de feuilles. C'est magnifique. On peut se dire, ah, je vais trouver quelque chose. Et puis après, comme le temple, il est tout beau et tout ça, bien on entre à l'intérieur, on regarde avec les yeux de Jésus au cœur, puis il se dit, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits dans ce temple. Ça devrait être une maison de prière pour toutes les nations. En fait, il y a du business dedans. Il y a des gens qui font à peu près ce que bon leur semble, même s'ils croient que c'est des choses valides et valables. Et il y a cette phrase toujours étonnante, mais c'est pas la saison des figues. Peut-être c'est pas la Pâque, on peut se dire, ou c'est pas les plus grandes fêtes. Peut-être Jésus attend au temple, tu vas trouver quelque chose de mieux. Peut-être qu'attends le figuier quand ce sera la saison des figues, peut-être que tu verras des figues. Mais il y a cette phrase comme ça qui revenait, qui dit, mais Jésus ne regarde pas aux apparences. Il aurait pu voir des petits bourgeons, il aurait pu voir les fruits qui allaient venir, il aurait pu voir le fruit, le potentiel du fruit qui allait venir. Mais il voit qu'il n'y en a pas. Et il souffle sur ce figuier, de la même manière, en chassant les marchands du temple. C'est comme s'il soufflait sur ce temple et qu'il disait en quelque sorte que plus jamais personne ne mange de ton fruit parce que c'est pas du fruit qui est bon pour la faim que moi j'ai, puisqu'on sait que Jésus avait faim. Alors à ce moment-là, on a de quoi désespérer. Ce qu'on peut se dire, si aujourd'hui ben, on prend ça comme chrétien, on se dit, mais alors c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui est condamné. À l'époque, on peut se dire, ben, pour Israël, il y a quelque chose qui est condamné. Mais en fait, à la fin, il finit tout cet épisode en donnant un message sur la prière, Jésus, et sur la foi. Il dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il invite les disciples qui voient finalement un geste comme de mort à tout d'un coup s'accrocher à Dieu et à Dieu seul. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut que les disciples s'accrochent à Dieu et à Dieu seul? Parce qu'il sait que le temple, il ne restera plus pierre sur pierre. Ça va être détruit. C'est une institution humaine. Les gens, si on prend l'exemple de la veuve et des riches, ils mettent leur argent, ils mettent leur confiance et ils croient que ça va fleurir, ça va germer, ça va donner du fruit, que Jérusalem va finalement vaincre la domination romaine. Mais il dit non, vous vous trompez. Et là, il y a quoi? Il y a les enseignements sur la fin des temps. Alors, je vous invite à lire ça ensemble. C'est dans Marc 13. Pourquoi on a besoin d'avoir la foi et la foi en Dieu seul? Parce que Dieu connaît les temps qui arrivent. Et comme il connaissait les temps qui arrivaient à Jérusalem et que le temple allait être détruit, de la même manière, aujourd'hui, je crois que l'appel que Dieu nous lance, c'est un appel à lui faire confiance, à lui et à lui seul. De la même manière que cette veuve qui a donné de son essentiel. Alors si on prend dans le chapitre 13, Marc 13, à partir du verset 7, Marc chapitre 13, à partir du verset 7, Jésus dit à quelques disciples qui sont là, « Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Ça fait écho peut-être à certains qui sont venus cette semaine et qui ont vu que dans l'opération Jéricho, il y a une lutte entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Je vais continuer la lecture dans la deuxième partie du verset 8. « En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. » Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus nous invite à marcher à sa suite. Il nous invite à marcher à sa suite et à faire de lui notre seule et unique assurance. De la même manière que lui, il a marché jusqu'à la croix, nous, on est invités à marcher jusqu'à la croix, à devenir ces chrétiens d'onction et pas simplement de nom. On est appelé à faire le deuil de peut-être des institutions, des choses aussi qui nous tiennent à cœur et dans lesquelles on met toutes nos assurances, hein, comme le temple pour les Israélites. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie pour nous, en tant que chrétiens, à Carouge, en Suisse, un dimanche d'élection? Ben, il y en a qui se disent déjà, attention qu'est-ce qui va être dit? Ben, en fait, je crois qu'on a tous mis en place des systèmes qui font que d'une certaine manière, comme pour les Israélites avec le temple, on est tous un petit peu des chrétiens de nom. En tout cas, c'est ce que je crois pour moi. Et Un de ces systèmes dont on a beaucoup parlé dans cette campagne, c'est les assurances. Quelque chose qu'on aime beaucoup finalement et qui est bien. Il y en a même qui pourront dire c'est même venu du christianisme pour l'entraide et la solidarité. Alors là, j'ai mis un petit panel parce qu'en plus des élections, on arrive au moment où on peut changer au cas où, si ce n'est pas déjà fait pour certains. Et puis, j'ai mis cette phrase « Quand tout est assuré, me voilà rassuré. » Et puis, avec la croix, j'ai mis « Solus salus », une assurance seule et unique. Seul le salut seul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de partir en voyage et puis au retour du voyage, vous vous rendez compte que vous aviez 3 assurances en fait pour le voyage que vous avez fait et que vous aviez trop payé. Parce que vous aviez l'assurance de la carte de crédit, vous aviez l'assurance peut-être du TCS ou d'une autre assurance, je sais pas, qui vous assure déjà pour les voyages ou la Rega qui allait venir vous chercher au fin fond du monde. Et puis vous avez l'assurance que vous venez de contracter à l'agence de voyage dans le doute. Vous dites, ouais, on prend ou on prend pas? Allez, on prend. Et puis finalement, on est un peu comme celui qui met les bretelles, puis il dit, ouais, je mets quand même une ceinture au cas où les bretelles sautent. Et si on parle plutôt pas de ce qui se passe en novembre, pas de la date butoir pour nos assurances qui doivent changer, mais pour les élections, on se dit, ouais, on a l'AVS, mais ça suffit plus aujourd'hui. Et puis il y en a qui connaissent bien mieux ça que moi dans la salle. Alors on va avoir le deuxième pilier. Ah, mais le deuxième pilier, attention, le pilier de tous les dangers. Parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir, et puis il faut aller chercher partout pour récupérer ce qu'on a déjà cotisé. Alors il y en a d'autres qui disent, bon, comme je n'ai pas à les récupérer, il y a de la bonne pub, allez, je fais un troisième pilier, allez, j'y vais. Et puis je vais encore avoir des économies au cas où. Et puis en fait, je voulais vous dire, mais on est un peu comme ces riches. Ils arrivent au temple, et puis ils donnent beaucoup, et ils mettent finalement dans un système qui est bien rodé, qui est super beau, puis Hérode, il a mis de l'argent, puis il y a des Israélites très influents qui sont allés, les Sadducéens, ils ont le pouvoir dans leur poche, puis ils disent, ah mais nous c'est bon, on est là, on est des notables et tout, on a des assurances. Puis en fait, ils ne s'attendent plus à Dieu. Ils font leur marchandage, hein, ils ont leur truc bien rodé, puis finalement si Dieu est là ou pas, ben, on s'en fiche. Pas besoin. De toute façon, on a notre argent. Regarde le temple. Regarde, Seigneur. Hein, on est visité par Jésus, puis on dit à Jésus, mais t'as vu ce temple, comme il brille. Il est magnifique, non? Puis Jésus, il regarde, puis il dit, mais il n'y aura plus pierre sur pierre. Et je crois qu'en fait, dans notre manière de vivre avec ces assurances, même si c'est des choses bonnes, et que comme le temple, il faisait des choses qui étaient dans la loi de Moïse, puis il devait le faire. Mais je crois que finalement, on bloque d'une certaine manière l'action de Dieu dans nos vies. Et on entre dans une routine, et sur ce chemin de la croix, ce que Jésus il dit, mais est-ce que tu serais prêt à te confier à moi et à moi seulement? Et dans ce cas-là, j'imagine la veuve qui a donné ses 2 pièces d'argent. Peut-être ce matin, il y en a qui ont donné en tremblant et disent, mais Seigneur, j'aurai plus rien ce mois-ci, mais je te fais confiance. Parce que toi, tu pourvois à tous mes besoins. Bah, vous allez dire ça, mais imaginez, avec les temps de la fin qu'on a lu dans Marc 13, que vous n'ayez même pas de réponse de Jésus, qui ne vous rassure même pas. Parce que quand Jésus il parle à ses disciples. Mais pourtant, la veuve, elle a quand même le courage et la foi, même sans avoir une parole de Jésus. Il y en a d'autres, on se dit, par exemple, celle qui a mis du parfum sur Jésus, bah, elle entend ce que Jésus dit. Elle dit, partout où cette parole sera prêchée, on parlera de ce que cette femme a fait. Mais là, cette veuve, elle n'a même pas les paroles de Jésus pour la réconforter, mais elle donne tout ce qu'elle a de son essentiel. Et en fait, Dieu la comble. Elle ne le sait même pas, mais non seulement il va la combler parce qu'elle se confie que en lui, mais en plus, il l'honore. Il fait de cette veuve la plus misérable que certainement les riches, ils n'ont même pas remarqué, peut-être qu'ils sont même embêtés qu'elle soit là, qu'est-ce qu'elle fait là. Et puis, Jésus, il prend ça comme un exemple pour parler à ses disciples. Et moi, j'avais envie de vous dire que j'ai vraiment été touché par cette histoire parce que moi-même, je pense que d'une certaine manière, j'avais perdu mon premier amour. Je préparais ce message et déjà avant, dans cette série de Marc, c'est un moment particulier pour moi de ma vie en ce moment, je crois que j'avais perdu mon premier amour. Je faisais plein de choses pour Dieu, je vis pour Dieu, on se voit ici à l'église, gloire à Dieu, mais il y a d'une certaine manière où j'avais perdu mon premier amour et ça s'est infiltré de façon très très fourbe dans ma vie. En fait, c'est que tout simplement, j'ai commencé à trouver ennuyeux de devoir écrire ma thèse. Je me suis dit, mais ça m'ennuie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pallié à ça en mettant des moments de repas particulièrement agréables. Donc soit bien, bien faire à manger, avec un bon dessert, et puis comble du comble, cerise sur le gâteau, regarder une petite série sur la RTS. Ah là, j'étais bien. Là, je mettais une petite série un peu nulle. Joya, ma femme, elle rigolait tout le temps. Mais pourquoi tu regardes ça? Mais je dis, mais maintenant, je sais que Chloé, elle a dit ça à Max. Et puis, je dois absolument savoir la suite. Et puis, j'allais me renseigner même sur la série au fur et à mesure. Puis, c'était court. Alors, je me disais, finalement, c'est pas trop grave. C'est 25 minutes. Donc, je peux manger même en 30 minutes. Puis, après, je retourne sur ma thèse. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un premier constat, c'est que j'avais peur de jeûner, tout d'un coup. Je m'étais tellement accroché au repas, je me disais, mais comment je vais faire pour jeûner? Le Seigneur me mettait à cœur un jeûne. Puis je me disais, mais Seigneur, j'ai peur en fait. J'ai peur. Pas manger une journée, j'ai peur. Est-ce que je serai concentré? Est-ce que j'arriverai encore à réviser? Est-ce que... Et puis j'étais là, un jour juste avant de faire mon jeûne, et puis je dis à Joya, mais j'ai peur de faire mon jeûne. Donc je vais commencer mardi et pas lundi parce que j'ai peur. Et puis elle me regarde, elle me dit, tu crois pas que tu devrais trouver une meilleure excuse que la peur? Je dis, ouais, mais j'ai peur. Et puis j'ai dit, ok, c'est pas une bonne excuse, je vais jeûner. Et puis j'ai jeûné et Dieu m'a visité. Et Dieu m'a visité et c'était des moments simples. Moi, je m'attendais à ce que le jeûne, on doive aussi faire une nuit de prière. Et puis, après peut-être 72 heures, peut-être que le Seigneur, il va me dire un mot. Et puis là, j'ai pensé à Daniel. J'ai dit juste, en fait, loue le Seigneur. Puis je me suis mis chez moi. Puis j'ai juste fait un chant de louange. Puis c'était peut-être 5 minutes des 25 minutes de série que je regarde plus. Gloire à Dieu. C'était 5 minutes. Puis il m'a visité. Puis il m'a dit des choses qu'il me disait déjà depuis un moment. Comme par exemple d'écrire ce que je vis avec lui dans un cahier. Pasteur Thierry, il avait prêché là-dessus, je crois, sa première prédication ici à Carouge. Il avait donné ça comme truc, puis Dieu m'appelait à ça. Puis Dieu m'a rappelé qu'il me disait, mais invoque-moi, puis je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu connais pas. Et en fait, je veux finir ce temps par un appel avec le groupe de louanges, si vous êtes d'accord de m'accompagner. Et j'avais 6 catégories de choses qui me sont venues en tête. Et je me suis dit, c'est pour ça que je témoignais de ça. Je me suis dit, il faut que je vous dise, il faut que je confesse aussi ce matin. Et c'est encore un combat, parce que c'est toujours plus facile de témoigner quand c'est fini. Mais je vous dis, pour moi, c'est encore un combat. Et je me dis, j'espère que je vais réussir à prendre du plaisir sur ma thèse. Et je crois, le Seigneur, il m'a aussi parlé par rapport à ma thèse, puis il m'a fait du bien, puis il m'a mis en paix par rapport à cela. Mais je crois qu'il y a, avec l'histoire de la veuve, je crois qu'il y a des gens parmi nous qui doivent faire un pas de foi sur l'argent. Je crois qu'il y a des gens, aujourd'hui, vous devez vous dire, peut-être même moi, c'est ce que Dieu me mettait à cœur, il y a des gens qui vont même donner de leurs économies pour l'œuvre de Dieu. Et vous êtes là, et peut-être que vous allez trembler, mais ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est qu'il va vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai jamais été un prédicateur de l'évangile de la prospérité. Moi, je crois qu'on doit tous être pauvres, et je crois en même temps qu'on doit tout donner pour Dieu. Et que Dieu, comme ça, il devient notre seule assurance. Et puis, il y a une amie qui me racontait dernièrement, elle avait eu un prix d'excellence. Et puis, c'était l'équivalent de 2500 francs suisses. Et c'est énorme hein, pour quelqu'un qui étudie et tout ça, 2500 francs. Puis Dieu lui a dit, donne tout. Puis elle a tout donné dans l'œuvre. Maintenant, ça fait quelques années de ça. Puis en fait, elle n'a jamais manqué de rien. Elle a continué des études, des recherches, donc normalement une situation précaire financièrement, mais elle n'a jamais manqué de rien. J'ai des centaines de témoignages que j'ai reçus, que j'ai vécu avec l'argent. Moi, je vous encourage et Dieu va vous parler aussi dans ce temps d'appel. Je crois qu'il y en a certains, vous devez donner de votre temps. Moi, je crois que c'était ça hein, avec les séries aussi. C'est que finalement, je passais du temps à regarder des séries, à parler avec des gens, puis Puis le Seigneur, il me disait, mais t'aimes bien parler avec tes collègues, boire un café, mais pourquoi tu parles pas avec moi? Je suis ton père. Le troisième, je crois qu'il y a des gens, il y a une personne dans vos vies que vous idolâtrez. Et finalement, à cause d'une personne que vous aimez tellement, ben vous loupez quelque chose avec Dieu dans l'intimité. Le quatrième, je crois qu'il y en a, qui doivent faire le deuil d'un rêve. Il y a des gens, vous êtes en train de rêver de quelque chose, et Dieu vient par vagues successives et il vous dit, c'est pas ça que j'ai pour toi, c'est pas ça que j'ai pour toi, c'est pas ça. Puis toi, mais j'ai un rêve, Seigneur, j'ai un rêve. I have a dream. J'ai un rêve. Mais c'est pas ça. Fais le deuil de ton rêve. Et je crois que ça, c'est l'exemple d'Abraham, hein, qui avait le rêve d'avoir son fils unique. Il a toute sa vie, je veux une postérité. Puis Dieu lui dit, mais sacrifie-le. Tu veux, oh Seigneur, sacrifie-le. Sacrifie ton rêve pour l'amour que tu as pour moi. Le cinquième, je devais le dire quand même, les séries télé. Il y en a certains, vous êtes en train de passer à côté de votre destinée parce que vous regardez des séries. Sachez que c'est vraiment fait, ou des séries télé, ou des, la télévision tout simplement, ou des films. Et c'est du temps précieux en fait qui est en train de vous être dévoré. Et puis le dernier, je crois que c'est la nourriture. Il y a vraiment des gens, vous entendez parler de jeûne, vous dites, non mais c'est pas pour moi. Je vous dis, j'aimais le jeûne, je le chérissais. Et en fait, j'avais perdu de vue le jeûne. Et en fait, en le refaisant, Dieu m'a vraiment, vraiment béni. Et j'ai vécu des choses que je n'avais pas vécues depuis plusieurs années. Donc voilà, ça c'est un premier temps d'appel. Et je crois qu'on peut tous se placer juste devant le Seigneur et puis lui demander maintenant, peut-être juste dans la douceur comme ça du piano, et demander, mais Seigneur, c'est quoi? Parle-moi maintenant. Je veux être comme cette veuve, et que ce soit la nourriture, les séries, l'argent, le rêve. Seigneur, je veux venir et je veux déposer cela, Seigneur. C'est mon essentiel comme pour cette veuve. Et je veux le déposer à tes pieds, à la croix. Parce que je veux pas être juste un chrétien de nom, une chrétienne de nom, mais je veux recevoir cette onction, Seigneur. Alors, simplement, mettons-nous devant le Seigneur. J'aimerais vous parler d'une deuxième chose pour cet appel, et je l'ai laissé pour la fin à dessein, de l'opération Jéricho. Je crois que la situation qu'on traverse, et vous verrez que c'est en lien avec ce qu'on vient de chanter et de prier aussi pour vous, Dieu vous a montré des choses, mais je crois qu'on doit faire un pas de plus, il va nous montrer des choses par rapport au bâtiment aussi ici, et à ce projet de démolition et de reconstruction. Je crois que la situation, pourquoi elle est excitante aujourd'hui? Parce que peu importe où vous vous situez, vous devez faire le deuil de quelque chose. Si vous aimez cette chapelle, j'ai envie de dire un peu comme les phrases de la Bible, à combien plus forte raison je l'aime. Je me suis marié ici, j'ai tellement de souvenirs ici, mais il y a un deuil à faire, comme les Israélites ont fait du temple, pour des raisons qui sont tellement claires, par rapport à la sécurité, par rapport au fait de pouvoir accueillir aussi d'autres gens. Et si vous voulez le nouveau bâtiment, il y a un deuil à faire, parce que ça a été stoppé. Donc vous devez dire, mais ce nouveau projet, bah, Seigneur, je le remets entre tes mains, parce que certains d'entre nous, on était peut-être comme ces gens riches, hein, avec la veuve, on était là en train de mettre même de l'argent peut-être de côté pour ce nouveau bâtiment, parce qu'en fait on voulait qu'il brille et qu'on puisse dire, mais hé, hey, et moi, Carougeois, moi je suis membre de la paroisse de Carouge. On construit un nouveau bâtiment. Puis il y avait de la fierté dedans. Il y avait de l'orgueil. De dire, ah, on va avoir un nouveau bâtiment. Nous, on est des vrais chrétiens. Pendant que les églises, elles se vident à Genève, nous, on est en train de construire une église. Ah, mais on est tellement fiers, on est tellement orgueilleux. Et du coup, on est les deux dans la situation où on doit faire un deuil. On doit dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. On est dans ce bâtiment, mais on est comme la veuve, on doit dire, Seigneur, moi je m'abandonne, et je m'abandonne pas à moitié, je dois pas être en retrait, puis dire, oh bah, advienne que pourra. Non, vous êtes membre ici, et s'il y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer, vous venez ici à l'église, ça vous concerne aussi. C'est de dire, Seigneur, ok, je dois me placer devant toi, et je dois me confier à toi et à toi seul. Et ça c'est pour ce bâtiment, mais c'est pour tout autre bâtiment, toute autre église ou tout autre chrétien. On doit se détacher un petit peu de cette église qui me plaît tellement et dire, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? On doit arrêter, c'est ça, être chrétien de nom, finalement, c'est venir à l'église. Puis être chrétien d'onction, c'est dire, moi, je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux pas venir dans une association, je veux faire l'œuvre de Dieu en 2019 ici à Carouge, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je veux faire ce que Dieu veut qu'il soit fait ici. Alors ça va avec l'autre appel, et je veux vous inviter à juste venir ici, peut-être vous agenouiller là, devant la croix, c'est devant la scène, mais c'est un geste d'humilité devant la croix. Que ça soit pour le premier appel, que ça soit quelque chose que Dieu vous a mis en évidence, de l'argent, du temps, une personne que vous idolâtrez, un rêve, des séries télé ou des films ou de la nourriture, quelque chose qui fait obstacle dans votre relation avec Dieu. Ou alors pour le bâtiment où vous devez abandonner, lâcher, venons et puis faisons ce geste prophétique de se dire, ben, je me mets à genoux et puis là je m'abandonne vraiment entre tes mains. Oui, Seigneur, vois nos cœurs, Seigneur, qui s'agenouillent. Et Seigneur, fais que ce soit pas seulement nos genoux qui soient à terre, mais également nos cœurs. Nous avons quelque chose à lâcher ce matin et à te remettre, Seigneur. Nous avons besoin de faire de toi notre essentiel. Et c'est ma prière, Seigneur, fais-le pour chacune, chacun, Seigneur. Fais de nous des chrétiens, des chrétiennes d'onction, Seigneur, qui marchent à ta suite vers la croix. Dans l'humilité, Seigneur, comme on l'a entendu la semaine passée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, fais ton œuvre par ton Esprit Saint et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul.
Oui, Seigneur, nous désirons être des chrétiens, chrétiennes d'onction et non de nom, Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous, Jésus, que nous puissions abandonner tout ce qui est plus important que toi dans nos vies, Jésus, et que tu reprennes la première place, et que nous puissions prendre notre croix et aller à ta suite. Merci, Seigneur, pour toutes ces destinées qui sont débloquées. Merci pour tous ces choix et ces positions qui ont été prises ce matin. Et Saint-Esprit, que tu puisses venir encore nous exhorter, nous encourager à tenir, Seigneur, ce choix et cette décision que nous avons prise ce matin. Que nous soyons courageux. Ouais, que nous soyons courageux.